Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les débats de panorama sur Europe 1 jusqu'à 19h. Libération d'otages israéliens, jour numéro 3. Trêve, jour numéro 4. Jusqu'où allons-nous comme cela? Notamment après des propos que l'on va commenter ici même, propos du président américain Joe Biden. Bonsoir François Hesbourg.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez dernièrement publié Les Leçons d'une guerre aux éditions Odile Jacob. Dans un instant, nous allons être rejoints par l'ancien ambassadeur d'Israël en France, professeur d'histoire, Eli Barnavi. François Hesbourg, Joe Biden dit espérer que la trêve qui a lieu depuis 4 jours se poursuive au-delà de demain. Est-ce qu'on doit y voir un signe de quelque chose?
Oh, j'y vois surtout les signes que Biden cherche à éviter que les événements au Moyen-Orient ne le gênent dans la campagne électorale qui se dessine. Il essaye de faire le grand écart entre une opinion publique qui soutient Israël et notamment le parti républicain et une fraction de l'opinion qui est virulemment anti-israélienne, y compris au sein de son parti. Donc Biden veut apparaître à la fois comme soutenant Israël et comme étant le partisan de la paix. Je ne suis pas sûr qu'il dise cela pour être nécessairement pris très au sérieux localement.
Donc ça veut dire que, aussi cynique que cela puisse paraître, on est dans un jour de libération d'otages. Ça fait un mois et demi, même un petit peu plus, que certaines familles reçoivent au compte-gouttes des enfants, parfois âgés de 4 ans, de 5 ans, des tout jeunes enfants, à qui, je ne sais pas ce qu'on a pu leur raconter, je pensais tout à l'heure au film avec Roberto Benigni, La vie est belle, où il raconte à son petit garçon dans les camps de concentration que finalement tout ça n'est qu'un jeu. Est-ce qu'avec tout le poids émotionnel terrible de cette libération d'otages, et on l'a encore dit avec Nathalie Cohen-Bezerman du CRIF juste avant vous, ce n'est que 50 sur plus de 200, on arrive à faire, pour Joe Biden en l'occurrence, de la politique intérieure?
Bien sûr. Et M. Sanchez, Premier ministre espagnol, a fait de la politique intérieure en allant se montrer du côté de Gaza alors qu'il n'avait rien à y faire. Le Premier ministre britannique, le Premier ministre irlandais, et ainsi de suite, chacun fait de la politique intérieure. Ce n'est pas en soi anormal, mais il faut savoir faire la part des choses.
Mmh. Bonsoir Eli Barnavi.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 en direct de Bruxelles où vous êtes en ce moment, monsieur l'ancien ambassadeur d'Israël en France, professeur d'histoire. Cette libération d'otages au compte-gouttes, et on le disait encore, 50 otages sur plus de 200, qui continue ce processus de jour en jour avec l'incertitude que ça peut compenser aujourd'hui, puisque évidemment hier on a eu un ascenseur émotionnel avec cette suspension. Je disais à François Hesbourg que Joe Biden a espéré une poursuite de la trêve. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bonsoir. Je suis heureux de retrouver François Hesbourg à cette occasion.
Également.
Je pense que c'est épouvantable. Enfin, avant l'analyse rationnelle, politique, bon, il y a la dimension sadique. Le Hamas joue avec les nerfs des familles, joue avec l'opinion israélienne, à tirer la chose en longueur. Ils ont intérêt à faire cela, évidemment, puisque chaque jour de trêve compte pour eux, n'est-ce pas? Ils peuvent se réorganiser un tout petit peu avec les coups qu'ils ont reçus. Et donc, il faut s'attendre à une très longue séquence avec ces otages. Et pour nous, c'est très compliqué parce que c'est une affaire sans précédent aucun. On ne sait pas faire. C'est-à-dire quand vous avez un ou deux otages, ben vous négociez, vous avez à peu près une idée où vous allez. Si vous avez plus de 200, c'est extrêmement compliqué. C'est un capital humain que le Hamas s'est donné là et qui va exploiter jusqu'au bout.
C'est très important ce que vous venez de dire, Eli Barnavi, parce que vous avez dit le Hamas, pendant la trêve, se réorganise, il se réarme, il revoit ses plans stratégiques, il devient de plus en plus fort, alors que c'est déjà une opération, j'allais dire marketing, pardonnez le cynisme autour de cet emploi de mots, mais c'est aussi une bonne opération vis-à-vis de pas mal de, de pays du Moyen et du Proche-Orient. Et en même temps, si Joe Biden, qui est le président des États-Unis, où on sait qu'il y a une communauté juive importante, et avec les États-Unis qui sont un allié d'Israël historique, comment est-ce que Joe Biden peut demander une poursuite de la trêve alors qu'il sait très bien que le Hamas va se réorganiser et se renforcer?
Bon, il ne faut pas exagérer les capacités de réorganisation du Hamas en quelque chose de trêve. Le Hamas, dans le nord de la bande de Gaza, le Hamas est pratiquement paralysé. Il a été incapacité. Alors, il y a le sud, effectivement, où il peut se regrouper. Je pense que le démantèlement des structures politiques et militaires du Hamas dans la bande de Gaza reste un objectif à la portée d'Israël. Alors, l'affaire des otages complique énormément la tâche de l'armée. On s'aperçoit de plus en plus, on devinait déjà que les deux objectifs de la campagne, la libération des otages et la destruction du Hamas, ne sont pas vraiment compatibles. Donc on va voir ce qui va se passer, combien de temps la trêve durera. Mais à mon avis, on n'a pas encore vu le bout de cette opération. Alors Joe Biden, lui, vous savez, la communauté juive américaine n'est pas un enjeu énorme pour Joe Biden. Les juifs américains voteront pour lui aux trois quarts, au moins. Mm-hmm. Le vrai enjeu pour Biden, c'est plutôt la gauche du Parti démocrate. C'est de là que viennent l'essentiel des ennuis et de la communauté arabo-américaine. Mm-hmm. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont concentrés. C'est toujours ce qui se passe aux États-Unis. Et là, ils sont concentrés dans des États clés comme le Michigan, qui sont très importants pour lui. Et de là peuvent lui venir quelques ennuis. Mais je dois dire que Biden est un vieux routier de la politique, est un stratège international. Il a une énorme expérience. Et je trouve qu'il fait plutôt du bon travail en naviguant entre des écueils qui ne sont pas négligeables. Mais je pense que pour l'instant, il s'en tire plutôt bien.
François Hesbourg.
Oui, je note au passage que Joe Biden n'a pas réclamé un cessez-le-feu. Mm-hmm. En cela, il se différencie très fortement des partisans du Hamas, bien entendu, mais aussi des pro-palestiniens, des universités, de l'aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis. Donc, encore une fois, il faut savoir faire la part des choses. Je ne pense pas qu'il y ait un changement de pied américain, un changement de pied lourd américain. Et pour le Hamas, bien entendu, il y a toutes sortes d'avantages à avoir cet immense nombre d'otages, hein, c'est effectivement sans précédent. Mais il y a un gros inconvénient, c'est que à chaque jour, le 7 octobre continue. Israël, mais pas simplement Israël, il y a des otages en provenance de 23 pays différents, doubles nationaux ou parfois non doubles nationaux. Autrement dit, c'est le rappel constant de ce qu'est le Hamas, c'est-à-dire une organisation qui prend, aujourd'hui, je regardais les âges des enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que la réaction de la plupart des êtres humains normalement constitués, forment quand même la majorité de l'humanité, ne peut pas ne pas être impressionné par ce spectacle.
Et vous trouvez qu'il y a un manque, c'est effroyable. Il y a un manque de gens qui sont impressionnés. Vous attendriez qu'il y ait plus de gens, une unanimité de la population mondiale pour dire regardez ce qui se passe.
Non, c'est pas une question de vote, d'unanimité ou non. Je pense tout simplement c'est l'espèce de sentiment d'effroi.
Donc il y a un manque d'effroi.
J'allais dire, qui est-ce qui peut s'identifier à des gens et qui maintiennent des enfants, 2 ans, 3 ans, etc., pendant des semaines et des semaines. Ça a commencé le 7 octobre. On est à la fin du mois de novembre.
Oui, vous devriez rajouter qu'est-ce qui peut s'identifier aux terroristes du Hamas qui, l'a expliqué ici sur les plateaux d'Europe 1 et d'ailleurs, sont des écervelés, sont des gens qui sont manipulés, sont les mettre des drones en fait. On les a programmés pour tuer des gens.
Mais, certes, vous avez raison, mais il y a très peu de choses qui sont aussi puissantes en termes de rappel de ce qu'est la différence entre l'humanité et la barbarie que, vous voyez les photos de ces mômes, ils sont des mômes. Je veux dire, on est en dehors de toute chose avec laquelle on puisse raisonnablement s'identifier.
Élie Barnavi, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'empathie dans le monde, justement, et qu'il y a un amalgame aussi? On a souvent entendu, d'ailleurs, au début du conflit, mais vous comprenez, c'est aussi parce qu'il y a la politique de Netanyahou en Cisjordanie qu'il se passe ça. Il y a quand même deux poids, deux mesures, et on ne peut pas justifier la barbarie.
Écoutez, c'est vraiment pénible. C'est... Imaginez que je vous dise que Hitler, en effet, c'était pas terrible, c'était pas un tibien, et que ce qu'il a fait est assez moche. Mais il y a eu Versailles, il y a eu l'humiliation du peuple allemand. Vous savez, ce qui est scandaleux moralement dans cette affaire-là, c'est le mais. Mm. Il y a ce pogrom effroyable, vraiment sans précédent depuis les Einsatzgruppen, depuis le massacre nazi
en Ukraine,
en Pologne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Voilà, ça, un point à la ligne. Et après, on parle de politique, la responsabilité du gouvernement d'Israël, la politique idiote qu'il a menée jusqu'à là, le fait qu'il a favorisé le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'ordre de la politique, de la diplomatie, de la stratégie, dans tout ce que vous voulez. Mais il faut d'abord évacuer cela. C'est-à-dire ça, il n'y a pas de « mais ». Quand moi j'entends « mais », je ne discute plus. Je m'en vais parce que c'est quelque chose d'insupportable. Mm. Mais, là je dis « mais », il faut quand même comprendre ce que le Hamas, et là il faut l'aborder avec des instruments rationnels de l'historien et du politiste. Oui. Le Hamas est un mouvement fondamentaliste, islamiste, dont le but n'est pas la libération nationale, ce n'est pas la création d'un État palestinien, c'est la Palestine, la Palestine islamique, du fleuve à la mer. Et vous avez quand même en Occident des dizaines de milliers de jeunes, souvent d'ailleurs des meilleures universités américaines et européennes, qui scandent ce slogan, sans vraiment comprendre ce qu'il signifie. La Palestine libre du fleuve à la mer, ça veut dire Judenrein, ça veut dire une Palestine où il n'y avait plus un juif de vivant. C'est un appel au génocide. Et les gens, y compris, vous savez, il y a un nombre effréné d'ayuri, des gens qui ne comprennent pas et qui se laissent entraîner dans des manifestations, dans des positions, et qui sont encouragés, je dois le dire, par des professeurs, par des intellectuels qui passent pour des gens très sérieux dans leur discipline, par des politiciens. Et là, oui, vous avez un phénomène qui n'est pas majoritaire, heureusement, mais qui est très bruyant et de plus en plus influent. Et ça, c'est très inquiétant.
François Hesbourg.
Oui, deux choses. Le Hamas n'est pas un mouvement national au sens classique du terme, des luttes contre la colonisation des années 60, 70. Le Hamas est effectivement un mouvement djihadiste, comme l'est Daesh, comme l'est Al-Qaïda. Les grilles d'analyse que l'on peut avoir, ce n'est pas... Ah oui, c'est le retour de Yasser Arafat. Pas du tout ça. C'est plutôt le retour d'Oussama Ben Laden en termes de comparaison. La deuxième chose, sur ce qui se passe dans nos pays avec des manifestations pro-palestiniennes, moi qui ne me pose d'ailleurs en soi pas de problème. Hein. Le sort du peuple palestinien est un sort très dur, instrumentalisé par le Hamas d'un côté et sévissé par la politique idiote de Netanyahou en Cisjordanie. Hein. Ce n'est pas formidable et je comprends qu'il y ait de l'empathie et de la sympathie pour le sort de ce peuple. Mais beaucoup de ces manifestations ont elle-même dérivée vers des registres qui sont ceux qui ont été évoqués par Élie, à savoir notamment l'appel au génocide, qu'est le slogan de la, du fleuve à la mer. Et ça, ça va se payer très cher électoralement dans nos pays, aux forces qui auront soutenu ce type de manifestation-là.
Mais payer très cher, ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que, comme à peu près personne dans l'électorat qui ne soit pas un fervent de l'islam politique, il y a très peu de gens qui vont s'identifier à ce qu'est le Hamas et ce que fait le Hamas. Et les gens qui auront été pris en flagrant délit d'identification seront punis aux élections. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit, aux Pays-Bas. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit, dans les rues de Dublin. Et ça ne va pas forcément être joli, hein, j'ajoute tout de suite. L'extrême droite, bien entendu, cherche à instrumentaliser, à profiter de la situation et ainsi de suite. Mais le fait est qu'il y a beaucoup plus de gens dans nos pays, beaucoup plus d'électeurs qui n'ont aucune sympathie pour le djihadisme, qui ne s'identifient pas au djihad, que de gens qui embrassent les tenants du djihad. Et à vouloir exploiter électoralement ceux qui manifestent, parfois sans trop savoir effectivement ce pourquoi ils manifestent, ceux qui cherchent à les manipuler, ceux-là vont payer très cher. On le verra aux élections européennes chez nous, par exemple.
Oui, il n'y a qu'à voir déjà les sondages.
Je ne voudrais pas dire, mais bon, aux Pays-Bas, ce n'était pas un sondage. Le candidat d'extrême droite, il a surgi dans la dernière semaine de la campagne. Et pourquoi est-ce qu'il surgit dans les dernières semaines de la campagne ? Ben parce que les gens sont terrifiés par le fait que l'on puisse transposer dans nos pays les événements portés par le Hamas, les actions du Hamas.
Élie Barnavi, quelle suite pour Israël ? Alors évidemment, Benjamin Netanyahou continue à dire que le but c'est d'éradiquer le Hamas. Après avoir négocié avec eux, donc il y a cet élément-là à prendre en compte. Et puis après, on parle toujours de cette solution à deux États. Alors, la solution à deux États, à quoi elle ressemble ?
Il y a la solution à deux États qui avait pratiquement disparu des radars internationaux. Vous savez, quand on évoquait la solution à deux États, on vous regardait avec une pitié condescendante.
Hélas.
Elle revient en force, cette solution à deux États. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Lorsque vous entendez le président Biden, il revient sans cesse. C'est la seule solution raisonnable, difficile, mais raisonnable, qui reste. Il n'y en a pas d'autre, tout simplement. Et mais donc, est-ce que vous m'entendez toujours ?
Parce je vous entends très bien, Lina Révi. Vous êtes sur Europe 1, en direct, on n'est pas coupé. Et on vous parlait de la solution à deux États. Alors, mais oui, mais alors, avec une solution à deux États, mais sans le Hamas. On est bien d'accord.
Oui, évidemment, sans le Hamas. Là encore, imaginez qu'après la Seconde Guerre mondiale, on accepte que le parti nazi se présente aux élections. C'est évidemment sans le Hamas. Alors, il y aura sans doute des faux-nés. Hein. Il y aura des gens qui auront la même idéologie et qui se présenteront sous d'autres couleurs. On ne peut pas complètement faire le ménage. Ce qui est important, c'est que le Hamas ne soit plus le souverain dans la bande de Gaza, ne menace pas la Cisjordanie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que militairement, c'est faisable. Alors, comme je l'ai dit, c'est compliqué à un moment les choses. C'est l'affaire des otages et aussi les non-concentrations de civils, de Gazaouis qui se trouvent là-bas.
Mais comment politiquement,
Élie Barnavi, comment... C'est la première fois qu'un État en finirait avec un mouvement dissident. Ça s'est passé, par exemple, avec les tigres tamouls au Sri Lanka. On peut, ceux qui disent qu'on ne peut pas démanteler le Hamas se trompent. On ne peut pas éradiquer l'idéologie, mais on peut très bien éradiquer
qui va se charger d'expliquer aux Gazaouis que le Hamas n'est pas un avenir, n'est pas une solution ?
Ben, c'est la communauté internationale. Moi, ce que j'aimerais voir le jour d'après, c'est une intervention massive de la communauté internationale. Quand je dis communauté internationale, ce sont les Européens, les Américains, les États arabes de la région, les organismes financiers internationaux. Il faut injecté énormément d'argent tout de suite. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est que nous ne laissions pas derrière nous une Somalie, un Mogadiscio,
oui.
mais que tout de suite, les Gazaouis voient et un horizon d'espoir. Et lorsque vous couvrez un territoire comme ça de pelleteuses, de grues, et que vous donnez du travail aux gens parce qu'ils n'auront pas où aller travailler, ils ne viendront plus en Israël, à ce moment-là, vous leur donnez de l'espoir et ils comprendront, comme beaucoup le comprennent déjà, il ne faut pas penser le contraire, que le Hamas n'a pas été vraiment un cadeau pour eux. Et là, à ce moment-là, on pourra extirper le Hamas non seulement des positions de pouvoir, mais aussi de la tête et du cœur des gens. Ça prendra du temps, mais ce travail-là doit commencer tout de suite.
François Hesbourg.
Oui, tout d'abord sur le, entre guillemets, la disparition de la solution des deux États des radars, et c'est tout à fait exact, mais avant qu'on ne s'autoflagelle sur le fait d'avoir oublié, entre guillemets, que c'était la seule solution politique dans la région, il faut noter qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui ont oublié, il y a aussi les pays arabes. Les accords d'Abraham, signés par le Maroc, par les Émirats arabes unis, par Bahreïn, par le Soudan et ainsi de suite, ces accords faisaient une croix, si j'ose dire, sur la solution des deux États. Et ce qui m'inquiète beaucoup, parce que je partage ce qui vient d'être dit sur ce qu'il faut faire à Gaza, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les mêmes pays arabes et d'autres pays arabes disent « Ah non, on ne veut surtout pas être mêlés à ce qui va se passer à Gaza après la bataille. »
Oui, en même temps, ils financent. Le Qatar finance le Hamas.
Oui, 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 mais on ne veut pas s'en occuper.
Mais on ne veut pas s'en occuper.
On donne l'argent,
mais... Ouais.
On ne va pas s'investir sur place. On ne va pas mettre de soldats. On ne va pas mettre de fonctionnaires à Gaza. On ne va pas aider l'autorité palestinienne qu'il va falloir remuscler par ailleurs, hein, parce que ce n'est pas avec le malheureux Mahmoud Abbas qui la dirige à l'âge canonique de 86 ans que cette autorité va pouvoir prendre en main Gaza. Et je suis très inquiet sur le fait que chacun dit, grosso modo, oui, il va falloir s'en occuper, mais ce n'est pas pour nous. Les États arabes disent, ce n'est pas nous. L'autorité palestinienne...
Donc, il y en a des ponts Pilate chez vous.
Nous, bien entendu, la notion d'aller envoyer des soldats à Gaza, je ne pense pas que ce serait d'une popularité absolument extraordinaire.
Donc ça va tomber dans les mains de qui, François Hesbourg? Parce que je suis votre
pour
cheminement.
Pour le moment, en ce qui concerne l'avenir politique de Gaza après la bataille, on est dans une situation d'anomie. Et ça... Encore une fois, ça m'inquiète.
Merci.
Sérieusement.
Bah écoutez, on va rester sur cette, non pas sur cette lueur d'espoir, mais sur une lueur d'inquiétude.
Ouais.
Je voudrais remercier beaucoup Elie Barnavi d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le bienvenu sur Europe 1, sur les jours qui viennent, évidemment, et les semaines qui viennent, parce qu'on va bien évidemment reparler de la guerre entre Hamas et Israël. Merci à vous, François Hesbourg.
Merci.
Et on peut lire votre livre chez Odile Jacob, Les leçons d'une guerre.